Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette émission Débat Patara de Radio Ndekeluka consacrée aujourd'hui à l'actualité judiciaire en République centrafricaine. D'abord par les mandats d'arrêt décernés contre certains individus suspectés d'actions subversives en RCA. Ensuite, l'acquittement puis la libération de Jean-Pierre Bemba de la prison de la Cour pénale internationale. En effet, à la date du 3 juin dernier, le parquet général de la Cour d'appel de Bangui annonce par un communiqué officiel avoir décerné un mandat d'arrêt contre Jamous Nimiri alias Force, un des chefs criminels de PK5, pour acte de terrorisme, assassinat, atteinte à la sûreté intérieure de l'État, offense au chef de l'État, rébellion et trouble à l'ordre public. Le même communiqué informe de deux autres mandats internationaux contre un certain Renuto alias Alpha et Bernard Cousin, présentés comme des commanditaires étrangers ayant été d'un grand soutien à Force pour ses actes de terrorisme contre la paroisse Notre-Dame de Fatima. Un peu plus d'une semaine plus tard, la Cour pénale internationale CPI a ordonné mardi la remise en liberté provisoire de l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, acquitté vendredi des charges de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité pour lesquels il avait été condamné en 2016 à 18 ans de prison. L'ancien vice-président de la RDC Jean-Pierre Bemba a été libéré de la prison de la Cour pénale internationale après y avoir passé 10 ans. Seulement, après sa libération provisoire, plusieurs personnes avancent déjà l'idée de son dédommagement. Ceci au grand dame des quelques 5000 victimes qui attendaient plutôt voir ce chef milicien croupir en prison et bénéficier d'une réparation. En Centrafrique, c'est un choc pour les proches des victimes. À l'unanimité, tous les Centrafricains ont crié au scandale et accusent une décision politique. Jean-Pierre Bemba a été privé de sa liberté pour des raisons politiques et il est remis en liberté pour des raisons politiques, a également reconnu un de ses avocats. Question: un mandat d'arrêt national et deux mandats internationaux pour des auteurs de déstabilisation du régime de Bangui, est-ce dire que l'heure de la justice a enfin sonné pour les auteurs de graves crimes commis dans ce pays? Quelle signification donner à la libération de Jean-Pierre Bemba, dont les éléments auraient commis des crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Centrafrique? Les Centrafricains peuvent-ils encore espérer en la CPS, la Cour pénale spéciale, cette juridiction qui comporte en son sein des juges internationaux? Pour en parler, nous invitons aujourd'hui autour de la table Monsieur Évariste Ngamana, directeur de cabinet du ministère chargé du secrétariat général du gouvernement, représentant les pouvoirs publics. Monsieur Évariste Ngamana, bonjour.
Bonjour Hippolyte et bonjour à tous nos auditeurs.
Monsieur Théro Kachabaz, porte-parole du Rassemblement pour la République RPR, représentant l'opposition démocratique. Monsieur Théro Kachabaz, bonjour.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Ndegeluka.
Maître Fernand Sylvio Mandejapou, coordonnateur de la coalition pour la Cour pénale spéciale, leader de la société civile. Maître Fernand Sylvio Mandejapou, bonjour.
Bonjour Hippolyte.
Et Monsieur Gervais Bodagay, assistant chargé de sensibilisation au bureau extérieur de la Cour pénale internationale en République centrafricaine. Monsieur Gervais Bodagay, bonjour.
Bonjour Hippolyte et bonjour à tous les auditeurs de la radio Ndekeluka.
Guy Rémi Yaminenji à la technique, je suis Hippolyte Marwa à l'animation de ce débat.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
Première question à vous, Maître Fernand Silvio Manetiapou. Longtemps attendu par la population, c'est seulement au début de ce mois que le mandat d'arrêt contre Nimiri Matar alias Force a été émis. Comment avez-vous réagi à cette décision du parquet général?
Je pense que c'est une très bonne décision. Ça prouve également que la justice centrafricaine se lève sa tête. La justice centrafricaine également, voyant la dernière session criminelle, avait jugé quand même des gens. Il y a Tidjani qui a été jugé et condamné. Il y a Ondilo même qui a été jugé. Pourquoi pas Force? Force, c'est un bandit, c'est un criminel. Et donc, vous savez qu'il doit aussi aller devant la justice pour prouver également son innocence, s'il est innocent, oui ou non. Mais ce que Force a fait, vous savez, il y a tant de morts au kilomètre 5. Force également est responsable de ça. Donc, pour moi, d'une part, c'est une très bonne nouvelle pour que le parquet général puisse prendre cette décision pour émettre ce mandat d'arrêt contre Force. Et nous demandons à la MINUSCA de respecter également et de chercher à mettre la main sur Force.
Merci, Maître Mandejapou. Monsieur Évariste Ngamana, aujourd'hui, la justice décide enfin de s'intéresser à Force. Comment vous appréciez cela?
Je vous remercie, Hippolyte. Il faut savoir que la justice, c'est comme une vieille dame qui marche doucement mais sûrement. Et la première impression que je pourrais dégager de cette décision, c'est que nous saluons tous cette action publique lancée par le parquet général de Bangui. Vous savez que pour en arriver là, il fallait documenter les faits, rechercher les débuts de preuves et maintenant chercher à lancer ce mandat d'arrêt. Ce mandat d'arrêt va servir aujourd'hui d'un instrument entre les mains des forces de défense et de sécurité, ainsi que de la MINUSCA qu'on vient de dire, maître Silvio Mandenjapo, pour pouvoir rechercher ce criminel, l'arrêter, le placer en détention ou dans les liens de la prévention pour qu'il soit jugé et qu'il puisse répondre de tous les actes criminels qu'il a eu à commettre avec tous ses complices.
Alors, monsieur Tairo Kachabaz, aujourd'hui, voilà, force qui est accusée de crimes graves quand même au PK5 et dans les quartiers environnants, notamment le drame de Fatima, est aujourd'hui inquiété par la justice. C'est aussi une bonne nouvelle pour vous.
Avant de commencer, je tiens quand même à souhaiter quand même une bonne fête de fin de Ramadan à nos frères musulmans centrafricains. Mm-hmm. Pour ne pas faire l'amalgame comme on entend souvent entre musulmans et terroristes, parce que quand on tue impunément, on n'est plus musulman, on n'est plus chrétien, on a juste le droit d'être appelé terroriste. Ça, c'est pour le premier point. Deuxième point, en ce qui concerne maintenant le dénommé force, on est quand même assez satisfait, entre guillemets, que les pouvoirs publics, enfin, daignent faire leur travail, à savoir lancer des mandats d'arrêt contre ceux qui sont justement dans une logique de trouble à l'ordre public. Mais au niveau du RPR, comme de la population en général, hein, on s'étonne de cette nouvelle diversion du pouvoir public, car on ne comprend pas. On ne comprend pas que force qui, aujourd'hui, crée les troubles à PK5, dans même pas 3 km carrés de la RCA, et avec une célérité, on arrive à trouver un mandat d'arrêt contre lui. Alors que les Alidaras, les Bahar, les Sidiki, les Al-Khatim, qui contrôlent plus de 85% du territoire national, qui pillent, qui créent des nouvelles juridictions. Parce que vous savez que la charia aujourd'hui est appliquée à Bandoro. Donc, des gens qui violent l'article 19 de la Constitution, qui dit que toute personne qui utilise les symboles de l'État, qui usurpe la souveraineté de l'État, est aujourd'hui dans une situation de crime imprescriptible. On ne comprend pas que ces gens-là, jusqu'à aujourd'hui, il n'y ait pas de mandat d'arrêt contre eux. Donc, en fait, moi je me dis une chose. Bahar, Sidiki, compagnie et Aïdara, tous ces gens-là sont des étrangers qui n'ont droit à rien en RCA. Ils n'ont le droit de rien revendiquer en RCA. Ces gens-là ne sont pas inquiétés et pire encore. Dans le cas d'Aïdaras, par exemple, qui le 23 avril, rappelez-vous, fait une déclaration dans la presse publique disant qu'il soutient le chef d'État dans le DR et qu'il est parti prendre avec le chef d'État.
Mais le fait de commencer par force, cela n'est-il pas déjà un signal fort pour tout cela que vous venez de citer?
À l'heure où nous parlons, M. Marbois, 40 000 populations de Bambari sont aujourd'hui dans les Ledger. Il y a des FACA qui ont été déployés par Bangassou, qui sont passés par Bambari, qui se sont fait tirer dessus par Alidaras et compagnie. Donc ce sont des gens qui devraient être neutralisés bien avant force. Et je m'étonne quand même que Joseph Zoundeko, qui est centrafricain, a été neutralisé. Je m'étonne que force, qui est centrafricain, même s'il est criminel, il a un mandat d'arrêt. Mais les étrangers qui opèrent en RCA, qui tuent, eux, ceux-là, ne sont pas inquiétés.
Moi, alors, nous n'allons pas peut-être monologuer, vous et moi, mais nous avons écouté le représentant des pouvoirs publics qui a dit que la justice, c'est une dame qui va doucement, mais va sûrement. Est-ce qu'il ne faut pas seulement attendre que chaque chose arrive en son temps?
Je pense que M. Ngaman a raison. La justice doit prendre son temps. Mais entre la justice et l'émission d'un mandat d'arrêt, il y a quand même une différence. On ne demande pas à ce qu'il soit arrêté systématiquement dans la seconde où nous parlons, mais on demande qu'au moins le minimum, à savoir un mandat d'arrêt, soit délivré contre eux. Qu'est-ce que le pouvoir public attend pour délivrer un mandat d'arrêt contre eux? C'est ça que nous attendons.
D'accord. Sur la question, je vois M. Ngamana qui représente le pouvoir public est là. Pourquoi ne pas commencer avec ces gros bras-là que de cibler?
Je voulais faire une clarification. Je crois qu'il y a un principe élémentaire du droit qui est le principe de séparation de pouvoir. Il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Il n'appartient pas au pouvoir exécutif de lancer ce mandat d'arrêt. L'un des engagements du chef de l'État dans sa profession de foi, c'était de faire de la justice libre de toute pression politique. Et aujourd'hui, si vous voyez le parquet général de Bangui se lève pour lancer un mandat d'arrêt contre force, comme je venais de le dire tantôt, c'est parce qu'ils ont suffisamment documenté les faits et ils ont la possibilité aujourd'hui de lancer ce mandat d'arrêt. Un autre aspect que nous ne devons pas occulter, c'est qu'en droit, il y a ce qu'on appelle l'opportunité de poursuite. Alidaras étant parmi ces bandes armées dans un recoin de la RCA, ce serait peut-être difficile de lui mettre la main dessus de manière systématique, comme le pense mon frère Chabaz, que force qui se trouve ici à portée de main au kilomètre 5. Donc vous voyez, il ne faut pas que nous fassions de l'amalgame entre le rôle que doit jouer le pouvoir exécutif et le rôle que doit jouer le pouvoir judiciaire. Donc la justice est en train d'opérer de manière libre et indépendante. Et nous n'oublions pas aussi que Il y a une juridiction hybride qui a été mise en place par la volonté populaire issue de la consultation à la base, qui est la Cour pénale spéciale chargée de juger tous ces crimes-là. Ça ne veut pas dire que aujourd'hui Ali Daras, Al Khatim, Sidiki sont à l'abri des poursuites judiciaires, mais ça viendra à son temps.
Merci, M. Varis Nabana, M. Gervais Boudaga, vous êtes aussi un acteur du monde judiciaire. Vous êtes assistant chargé de sensibilisation au bureau extérieur de la Cour pénale internationale. Souvent, nous parlons d'une situation nationale. Vous êtes centrafricain, vous avez aussi votre droit de parole sur ce qui concerne la vie de cette nation. Aujourd'hui, un mandat d'arrêt est émis contre un individu en la personne de force qui est là au kilomètre 5. Est-ce, selon vous, signe que la justice centrafricaine est-elle réellement en marche, comme l'a relevé tout à l'heure Maître Mani Diapou?
Effectivement, Hippolyte, il y a un adage qui dit « Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra ». Quelles que soient les infractions commises par des criminels, un jour, ils seront devant la justice. Je suis tout à fait satisfait du lancement de ce mandat d'arrêt. Mais vous savez également, comme notre frère venait de le relever tout à l'heure, il y en a d'autres, etc. Il y a deux possibilités de lancer des mandats d'arrêt. Il y a des mandats d'arrêt publics et il y a des mandats d'arrêt sous scellés. Et les mandats d'arrêt sous scellé, c'est vraiment sous réserve du procureur général qui a déjà ce mandat d'arrêt, mais qui cherche l'opportunité par quel moyen cette personne pourrait être arrêtée. Donc, à ce jour, nous ne sommes pas dans le secret du procureur général, mais c'est une des possibilités qui existent et peut-être nous ne sommes pas au courant.
Vous insinuez que ça pourrait être le cas des gros bras comme Ali Daras, Al Khatim, Noureddine Adam, Abdoulaye Sène et Sidiki.
Effectivement, c'est une possibilité. Et vous savez que le pouvoir a fait également de la lutte contre l'impunité un des objectifs principaux. Et la population centrafricaine aussi. Vous savez, depuis le forum de Bangui de 2015, précédé par les consultations à la base, le peuple centrafricain a dit non à l'impunité. Impunité zéro. Et toutes les questions et les velléités qui se sont soulevées, parlant par exemple de l'amnistie et tout ça, non. Les crimes graves sont imprescriptibles. Et il n'y aura jamais d'impunité pour les auteurs des crimes graves en République centrafricaine.
Merci, M. Gervais Boudaga. Je reviens à vous, M. Varis Gabana. Dans le cas de force, justement, le parquet général a expliqué qu'il bénéficie du soutien de commanditaires étrangers. Deux noms ont été cités également. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur l'identité de ces deux suspects?
Merci, Hippolyte. Je vous demande de permettre à ce que je puisse être un peu plus long sur cette question. Vous savez que si le parquet général en est arrivé à lancer un mandat d'arrêt national contre force et deux mandats d'arrêt internationaux contre ces sujets étrangers, c'est parce qu'il y a des preuves établies. Je m'explique. Nous avons là le cas de M. Christophe Renoto, alias Alpha, et de Bernard Cousin, qui sont des sujets étrangers, comme vous venez de le dire, même précisé par le parquet général de Bangui. Et effectivement, ce qui s'est passé, par exemple récemment, au niveau de Fatima, a été un acte suscité, orchestré, planifié et amplifié. Et le but recherché, c'était de pouvoir mettre les autorités actuelles en difficulté et dire que les autorités ne font rien pour la population qui est en train de souffrir. Pourquoi cela? Parce que vous savez que le jour du 1er mai, où
Notre-Dame
était attaquée, au même moment se passait sur la place de défilé la festivité du 1er mai. Et ce qu'on ne dit pas aux gens, le gouvernement a pris le soin de déployer des forces de défense et de sécurité intérieure, c'est-à-dire police et gendarmerie. Mais personne ne savait que l'intensité des actes allait être à cette mesure-là. Donc, c'était un truc planifié. Il fallait attaquer les chrétiens qui étaient en prière, les mains nues, et allant jusqu'à même tuer un prêtre pour susciter la colère des chrétiens contre les musulmans, ce qu'ils ont à moitié réussi à le faire, parce qu'il y a eu quand même quelques musulmans qui ont été agressés et tués même au niveau de la Kwanga. Et maintenant, vous voyez le lien qui s'est passé entre les tueries de Fatima et le corps de l'abbé Tungumali Baba qui va être déporté jusqu'au
palais
de la Renaissance. Donc c'est un truc planifié par ces sujets étrangers qui étaient derrière ce criminel force parce qu'ils savent qu'en faisant cela, on va remonter la population contre les pouvoirs établis. Et le parquet général, pour en arriver là, a eu quand même un début de preuve. Et je vous informe que l'une des preuves, c'est que des messages ont été envoyés à certains responsables de groupes armés, notamment Force, et des contacts ont été pris entre ces deux messieurs, Renoto et Bernard Cousin, avec des responsables de groupes armés et aussi certaines personnalités politiques et même de la société civile. Donc, c'est pour vous dire que au jour d'aujourd'hui, si le mandat d'arrêt est lancé contre Force et deux mandats d'arrêt internationaux sont lancés contre Bernard Cousin et Christophe Renoto, parce qu'il y a un début de preuve que le gouvernement a mis à la disposition de justice et la justice s'en est saisie pour lancer ce mandat d'arrêt.
Alors, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où c'est des suspects étrangers qui sont là impliqués, amplifiés la crise centrafricaine, comme vous venez de le dire, hein, M. Varis Ngamana, maître Fernand Silvio Marindiapou. Est-ce qu'on peut avancer la thèse selon laquelle ces sujets étrangers agiraient sous l'ordre de leur pays?
Ah, les sujets étrangers, ils sont de quelle nationalité? Vous venez de m'informer. Je pense que ce qui est important, d'abord, premièrement, laissons le ton au parquet. Il y a un mandat d'arrêt qui est lancé. Et lorsque le mandat d'arrêt est lancé, ça prouve que déjà il y a des preuves au niveau du parquet. Donc, c'est important ce que nous voyons les preuves, où pendant l'audience, nous pouvons dire « oui, c'est vrai, les gens ont reçu l'ordre, ça a été comme ça », ainsi de suite. Parce que vous savez, nous-mêmes, les propres Centrafricains, on aime beaucoup le pouvoir. Nous avons ramené même les Américains à nous financer pour les rébellions. Nous-mêmes, Centrafricains, on a ramené les étrangers à nous financer. D'abord, nous, Centrafricains, on a amené des mercenaires. Léa Lindaras, elle est venue comment? Ce sont des mercenaires que les Centrafricains ont amenés. Beaucoup de gens, c'est nous-mêmes qui avons amené. Peut-être ces Français sont de leur business dans les mercenariats, on les a amenés. Donc, pour accuser un État, il faut que nous soyons entourés de toutes les garanties. Premièrement, c'est ça. Deuxièmement, je pars des preuves. Moi, on m'a parlé de ces gens. Ils ont répliqué également sur les réseaux sociaux. Ils ont donné leur point de vue. J'en ai lu. Mais nous attendons la justice centrafricaine de faire son travail. Donc, le jour de l'audience, nous allons voir. Donc, là-dessus, avancer vite. Certaines aberrations, j'évite. Parce qu'en tant que juriste, il faut qu'il y ait quand même des limites dans mes propos. C'est important pour que nous puissions voir. Donc, ce sont des gens qui ont dit que non, nous sommes là en RCA pour tel. Nous, ça ne nous regarde pas. Je laisse la place à la justice. La dame justice marche doucement. Et la dame justice va rattraper les gens. C'est important ce que nous puissions d'abord observer et de voir comment nous pouvons en être. Ces gens, des commanditaires, des co-auteurs, des complices, donc, il ne faut pas beaucoup crier. Il faut travailler doucement, dire à la justice de travailler doucement pour mettre la main sur ces gens, les complices qui sont ici à l'interne et les complices qui sont à l'externe.
Merci, maître Fernand Silvio Marindiapou. Monsieur Théro Kachabaz, aujourd'hui, force est inquiétée par la justice, y compris ses commanditaires. Comment cela peut être perçu hein, en termes de leçons par rapport aux autres leaders de groupes armés qui continuent d'alimenter la crise sur l'étendue du territoire?
Je pense que le cas de force n'inquiète nullement les groupes armés qui sont aujourd'hui en train d'écumer notre territoire national. Ils ne sont pas inquiétés parce qu'ils sont partie prenante de différents processus auxquels, par exemple, je parle du cas de l'UPC, ils n'ont pas droit. Vous avez vu que dernièrement, nos FACA ont été déployés pour Bangassou. Ils ont traversé la Waka, précisément à Bambari. Ils se sont fait tirer dessus, pris à partie dans un guet-apens par des groupes armés. Il n'y a pas eu de condamnation, il n'y a pas eu de réaction. Donc, ces groupes armés sont infiniment plus armés, beaucoup plus équipés, beaucoup plus aguerris que Force et ses éléments. Donc, en ce sens, je pense qu'ils n'ont pas peur de ce mandat d'arrêt qui a été délivré contre Force. Vous avez vu que dernièrement, il y a une coalition qui s'est encore faite hein, entre l'UPC, le MPC, le FPRC pour la reprise de la Waka et précisément de Bombaré. C'est la preuve que, justement, toutes ces agitations judiciaires n'inquiètent pas véritablement ceux-là qui sont en train de créer le chaos dans le pays.
Ils se croient plus forts même que la justice ou encore que l'État centrafricain.
Ils ne se croient pas plus forts, ils le sont véritablement.
Alors, s'ils sont plus forts que l'État, M. Gervais Boudaga, pensez-vous que la justice centrafricaine est-elle assez forte pour en arriver là à arrêter ces individus? Quelle recherche?
Ben évidemment, certes, peut-être que la justice centrafricaine manque un peu de moyens, mais la justice centrafricaine, elle est forte parce que dans les dispositions de ces textes, notamment quand on prend le code pénal centrafricain ou bien le code de procédure pénale, on va retrouver que ce pays a cette capacité-là de juger les auteurs de crimes graves, comme les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre. Et ce sont des crimes imprescriptibles. Partant de là, je dis que la justice centrafricaine, elle reste forte. Et c'est une justice qui a déjà jugé un ex-président de son propre pays. Et lorsqu'on parle de jugement de Bokassa, c'est des magistrats centrafricains, c'est la justice centrafricaine qui l'avait jugé. Et d'autres affaires également ayant des portées très fortes en termes de la commission des crimes graves. On parle également de la dernière cour criminelle qui a jugé également des auteurs de crimes graves. Donc cette justice, elle a toute sa capacité avec des magistrats chevronnés et qui a justement cette capacité-là de juger les auteurs de crimes graves.
Mais d'abord, avant d'évoquer le cas des magistrats, est-ce que les OPJ sont en place? Est-ce que les forces
de sécurité intérieure sont là. Avez-vous confiance en ces FSI et la MINUSCA pour pouvoir réussir à mettre la main sur ces individus et puis les transférer devant la justice afin que le procès ne démarre?
Je n'ai pas tous les moyens qu'il faut pour évaluer la capacité des OPJ, etc., pour pouvoir mettre la main sur tous ces fauteurs de troubles et puis des auteurs de crimes graves. Mais je dis, la justice en tant qu'institution, elle est forte et elle a toute sa place actuellement en République centrafricaine.
Merci, cher Fébou Dagaï. Sur la même question, M. Varis Ngamanao, aujourd'hui, quand on voit un peu le degré de complicité qu'il y a dans les opérations de traque des malfrats dans ce pays, tout le business qui règne autour de ces chances-là qui activent la crise centrafricaine, quand on voit un peu la capacité opérationnelle de nos FSI, quand on voit le mode opératoire de la MINUSCA, est-ce qu'on peut avoir confiance, on peut se faire confiance, on peut espérer sur tout ce monde-là pour pouvoir au moins mettre la main sur ces chances-là recherchées aujourd'hui par la justice?
Oui, pourquoi pas, parce que je pense que, comme vient de dire M. Boudangaï, la justice en tant qu'institution, elle demeure et elle reste forte. Et pour parler des OPJ ou bien des forces qui puissent appréhender ces criminels notoires-là, je crois que nous disposons aujourd'hui d'une police et d'une gendarmerie qui, en dépit de ces moyens limités, font quand même un travail remarquable. Et ajouté à cela, nous avons aussi les forces de la MINUSCA qui sont là pour nous appuyer. Et dans le cadre de la justice, je crois qu'il est aussi de leur devoir de pouvoir mettre en place tous les moyens possibles pour pouvoir rechercher et appréhender ces criminels-là. Donc, si dans un passé récent, nous avons eu à assister à l'audience qui a abouti à la condamnation de quelques criminels, à l'exemple de ceux que Mandine Diapo venait de citer, et même de Angelo, pourquoi pas ceux-là qui sont en train de commettre des crimes en ce moment. Puisqu'il y a des ramifications, hein, que ce soit à l'intérieur du pays. Parce que quand on parle de force comme étant l'un des chefs criminels, il n'y a pas que force. Il ne faut pas qu'on regarde seulement du côté de
Kilomé 5. C'est pourquoi
je vous ai dit, voilà, il y a des complicités. Aujourd'hui, un mandat d'arrêt est lancé contre force, mais il y aura aussi d'autres mandats d'arrêt qui seront lancés peut-être contre certains commanditaires, auteurs intellectuels et qui pensent se cacher en ce moment. Mais la justice, dans sa démarche, va d'un moment à l'autre les rattraper. J'ai parlé tout à l'heure de certaines personnalités qui sont impliquées aussi de l'intérieur comme de l'extérieur. Il est du devoir de la justice de documenter ces faits et au moment venu, je crois qu'ils seront mis à la disposition de la justice.
Oui, je posais justement cette question au regard de ce que aujourd'hui, quand une action est enclenchée au niveau des autorités de la République, les personnes concernées sont déjà mises au parfum avant même que la mission n'arrive sur le terrain. On a appris des histoires comme ça avec force. L'opération Soukoula a été lancée, le gars a été prévenu bien avant, il a pris la poudre d'escampette. Il en est de même pour le voyage des FACA à Bangassou et Bambara a été alerté et puis ils ont été accueillis. Voilà.
Mais nous connaissons la suite parce que, comme je venais de le dire, c'est un vaste complot. Vous êtes sans ignorer que dans ce pays, comme a dit Maître Fernand Mandjé Dapo tout à l'heure, tout le monde veut le pouvoir et nous utilisons des moyens qui ne sont pas légaux pour pouvoir accéder à ce pouvoir. J'ai parlé de la manipulation tout à l'heure et je pèse bien mes mots. C'est parce que s'il y a des situations qui perdurent aujourd'hui dans notre pays, c'est parce que parmi nous, il y a des centrafricains qui trouvent malin plaisir de collaborer dans le mal, d'appuyer des forces criminelles contre leur peuple qu'ils prétendent gouverner et contre les autorités établies. Et je voulais rebondir aussi sur ce que Maître Fernand dit en ce qui concerne les sujets étrangers qui sont aussi commanditaires de cette situation-là, pour dire que s'il y a eu des réactions sur les réseaux sociaux, il faut bien les lire. Prenons le cas de M. Renoto. Il a clairement avoué qu'il était à Bangui et qu'il a pris des contacts avec certaines personnalités politiques pour parler de la crise centrafricaine. Mais il l'a fait en qualité de qui? Et pour quels résultats? Donc vous voyez, donc il y a toute une ramification autour de cette crise que nous sommes en train de vivre. Si bien que, pour conclure, on peut dire que c'est le centrafricain qui est la cause du malheur du centrafricain. C'est pourquoi je profite, Hippolyte, de votre micro pour appeler la population centrafricaine à la vigilance et à la prudence, pour ne pas qu'on puisse céder dans ces actes de manipulation et qu'on puisse céder dans ces actes qui puissent nous conduire à une sorte de division, à pouvoir fragmenter la cohésion sociale que nous sommes en train d'entamer.
Merci, Varis Ngamanao.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndeke Luka.
L'émission Patara sur Radio Ndekeluka. Venons-en à ce sujet qui fâche. Jean-Pierre Bemba est désormais un homme libre. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle au niveau de la société civile centrafricaine, Maître Fernand Silvio Mandejapo?
Merci beaucoup. Je pense que au niveau de la société civile centrafricaine, c'était un peu du désarroi pour les victimes. Les gens nous appelaient de gauche à droite pour dire « mais vraiment, pourquoi ça ?» Et vous savez que c'est la justice. Et d'abord, premièrement, nous savons que c'est une décision judiciaire. Et en calculant que Bemba déjà fait déjà presque 10 ans en prison, parce que c'était depuis 2008, je parle en prison de Gervais, c'était de 2008 à 2018, il a fait 10 ans de prison. Et après, les juges ont demandé, parce qu'ils devaient avoir un procès d'ici le 4 juillet, parce qu'ils ont demandé une liberté provisoire pour qu'il aille se reposer avec sa famille, ainsi de suite là-dessus. Et nous, déjà, de la société civile, avec les associations des victimes, les gens se sont inquiétés parce que, premièrement, la décision, c'était pour 18 ans de prison pour Jean-Pierre Bemba. Après, il a cassé, il a fait appel. Après, la chambre d'appel a accepté de l'acquitter. Il a été poursuivi, c'est vrai, pour des crimes. Réellement, nous savons qu'il y a les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Et nous avons su également que il paraîtrait que la Cour pénale a accepté d'octroyer 250 millions, une partie également pour les victimes. Je ne sais pas seulement ça. Ils sont en train de chercher à lever les fonds pour voir comment intervenir ou comment appuyer les victimes. Premièrement, j'aimerais aussi jeter des fleurs. Vous savez, on a des centrafricains qui ont donné leur vie pour les victimes, qui ont été consciencieux pour travailler depuis en ce qui concerne, pour essayer de voir comment intervenir. Je prends l'exemple de Maître Marie-Edith Douzima, qui est la représentante légale des victimes devant la CPI, qui s'est beaucoup battue pour que les victimes puissent être dédommagées ou qui est indemnisée. On parle également du feu Maître Gungay Wafio, que ce soit du feu Maître Zarambo à Singambi, ou actuellement de Maître Célestin Zala ou Maître Mourba. Ce sont des gens qui, mais eux ne décident pas, les juges ont décidé. Maintenant, eux, ils se sont combattus pour que les victimes puissent être indemnisées. D'autres ont pensé que non, c'est une décision politique. D'autres ont pensé que c'est une décision
Nous allons venir justement sur cette appréciation de la libération de Jean-Pierre Bemba. Nous continuons de faire le tour de table justement sur la réaction à chaud ou à froid. Cette libération de Jean-Pierre Bemba au niveau de l'opposition démocratique, comment vous avez apprécié cette nouvelle, monsieur Teruka Chabaz?
Merci. En tout cas, comme vous le voyez, c'est une décision d'un tribunal. En ce sens, on n'a pas à commenter une décision de tribunal, mais nous pouvons tirer quand même des conséquences, tirant des leçons au niveau politique. Politiquement, de cette décision, de cet arrêt de la Cour de justice internationale, ce que nous pouvons dire, c'est que déjà, premièrement, les droits des victimes n'ont pas été bafoués. C'est-à-dire qu'en aucun cas, la CPI a dit qu'il n'y a pas eu de crime ou bien qu'on n'a pas reconnu les crimes. La CPI simplement s'est prononcée sur la responsabilité de M. Bemba quant à la question des crimes qui ont été commis ici en RCA. Ces crimes ont été commis, donc ça veut dire que les victimes ont toujours cette possibilité, ont toujours leur droit par rapport aux réparations, aux dommages, etc. Ça, c'est la première leçon politique que nous pouvons tirer. Deuxièmement, ça concerne maintenant Bemba lui-même. La justice ne dit pas qu'il n'y a pas eu de crime, elle a dit que Bemba a mis à la disposition d'autorités militaires et politiques centrafricaines ses troupes. Par conséquent, la CPI nous dit que le bureau du procureur n'a pas suffisamment étayé son dossier pour démontrer, sans l'ombre d'un doute, la responsabilité directe de Bemba. Donc la CPI nous dit que si nous voulons chercher des responsabilités au niveau militaire et au niveau politique, il ne faut pas chercher du côté de Bemba, mais du côté des autorités centrafricaines. Ça, c'est le deuxième point qu'il faut souligner, c'est très important. Troisième élément que nous pouvons tirer comme conséquence de cet arrêt, vous avez vu que la CPI a entamé donc une action judiciaire. Nous avons ici en RCA des problèmes depuis deux décennies. Et nous avons à plusieurs reprises essayé de résoudre ces problèmes-là par le canal judiciaire et par le canal militaire. Ça a été des échecs ou des déceptions. Avec cet arrêt-là, ça montre que si nous voulons véritablement sortir de la crise où nous sommes, il faut déjà commencer par résoudre la crise politique. Parce que c'est politiquement qu'on pourra permettre aux victimes.
Oui, mais justement sur la question d'appréciation de cette crise, hein, avant d'en venir là, c'est dire que vous vous alignez derrière la décision prise par la Cour pénale internationale de dire que Jean-Pierre Bemba n'est reconnu coupable d'aucun crime commis en Centrafrique. Il faut regarder du côté de la responsabilité des autorités centrafricaines.
Il ne s'agit pas de s'aligner, il s'agit d'être responsable en tant qu'homme politique. Nous avons aujourd'hui un état de fait. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut changer cet état de fait ou bien est-ce qu'on doit trouver des solutions pour pouvoir, en tout cas, trouver des réparations, des dédommagements pour la population? Nous prenons les choses telles qu'elles sont et maintenant, en tant que responsables politiques, nous cherchons des voies qui permettront aux 5 000 victimes de pouvoir trouver gain de cause. C'est ça qui est important. C'est pas de nier l'évidence de ce que nous voyons aujourd'hui. C'est pas de jeter l'opprobre sur la CPI. Le plus important aujourd'hui, c'est en tant que responsables politiques, nous devons expliquer cette décision à nos populations et leur montrer les voies qui existent pour permettre à ce que ceux qui ont perdu des biens, ceux qui ont perdu leur famille, ceux qui sont aujourd'hui en procès, puissent trouver gain de cause. C'est ça qui est important aujourd'hui. Mais je pense qu'il ne faut pas essayer d'instrumentaliser, de créer des haines ou de quoi, mais il faut vraiment, en tant que parti responsable, en tant qu'homme responsable, trouver des voies légales pour permettre aux populations, aux sociétés civiles de pouvoir subvenir à leurs besoins et puis avoir gain de cause.
Merci, M. Teruka Chabaz. M. Varis Ngamana, aujourd'hui, la décision elle est connue de tous. On a suivi la réaction du porte-parole du gouvernement qui exprimait son état de choc, son désarroi quand la décision a basculé en faveur de Jean-Pierre Bemba, en défaveur de la République centrafricaine. Aujourd'hui, est-ce que cette décision vous surprend?
Merci, Hippolyte. Je voudrais d'abord souscrire entièrement à la prise de position du porte-parole du gouvernement, étant entendu que je suis représentant du pouvoir public ici sur le plateau, et en même temps dire que j'étais également offusqué, consterné, quand j'avais suivi cette décision de la Cour pénale internationale. C'est vrai, du point de vue de droit, cette décision de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale est susceptible d'aucun recours. Nous nous inclinons devant cette décision, mais nous estimons quand même que c'est une décision qui est en train de décrédibiliser la Cour pénale internationale. Je m'explique. Vous voyez même que dans la déclaration, je commence d'abord par le procureur général de la Cour pénale internationale qui, à travers un communiqué, a exprimé carrément son désarroi par rapport à cette décision. Et si vous voyez aussi dans la déclaration de l'avocat de Jean-Pierre Bemba, il a dit, vous avez retracé dans votre résumé, que Jean-Pierre Bemba a été arrêté pour des raisons politiques et il est en train d'être libéré pour des raisons politiques. Cela sous-entend ce que cela veut dire. Donc pour nous, en tant que politique, nous pensons que c'est une décision qui met en mal l'image même de la Cour pénale internationale. Dans un passé récent, si nos souvenirs sont bons, il y a des pays qui ont commencé à dénoncer certains actes de cette Cour et qui même ont décidé de se retirer de cette Cour. Je prends l'exemple de l'Afrique du Sud, du Burundi et même de la Gambie, de Yahya Jammeh, etc. Je crains fort que d'autres pays puissent emboîter le pas. Non, c'est pour dire que cette décision a quand même un caractère politique. D'autant plus que nous savons tous, sans pour autant interférer dans la vie politique de nos pays voisins, que nous sommes à quelques mois des élections présidentielles en République démocratique du Congo. Et Jean-Pierre Bemba est quand même l'une des figures politiques de ce pays. Et cette décision intervient à la veille de cette échéance-là. Ça pose quand même quelques questions d'ordre politique. Donc pour nous, c'est une décision qui, en même temps, décrédibilise la Cour pénale internationale et en même temps n'est pas en faveur des victimes qui sont des centrafricains qui ont quand même beaucoup souffert. Comment comprendre aujourd'hui qu'on puisse indemniser les gens et qu'on dise en même temps que votre bourreau, ce n'est pas celui-là. S'il y a crime, c'est qu'il y a quand même un auteur de ce crime-là.
Oui, il y a un élément quand même qui a été mis en exergue par la défense de Jean-Pierre Bemba et qui vient d'être relevé ici par M. Teruka Chabaz, faisant état de ce qu'il faut chercher la responsabilité des crimes du côté des autorités centrafricaines. Est-ce que ce message-là est entendu ici?
Je crois qu'il ne nous appartient pas d'évoquer cette question puisque c'est une décision d'une juridiction. Nous sommes là dans le cadre du pouvoir judiciaire. Donc, si responsabilité il y a du côté des autorités centrafricaines, c'était à cette cour-là de l'approuver. Il ne nous appartient pas d'approuver la responsabilité des autorités.
Merci, M. Faris Ngamana, M. Cherfaye Boudagaï. Aujourd'hui, la CPI a pris cette décision de mettre Jean-Pierre Bemba en liberté provisoire. En Centrafrique, c'est une nouvelle qui n'a pas été la bienvenue pour tout le monde, non pas seulement les victimes, mais aussi l'ensemble de la population centrafricaine. Et on parle d'une décision politique. C'est vrai, j'entends que vous ne siégez pas à la Cour pénale internationale, mais pensez-vous que les juges de la CPI ont été à l'aise en prenant une telle décision pour un monsieur qui a déjà été reconnu coupable pour des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, et 10 ans plus tard, on dit que monsieur, vous êtes libre?
C'est une question bien pertinente. Je voudrais d'abord m'aligner à tout ce que monsieur Chabaz disait tout à l'heure en ce qui concerne cette décision finale, parce que c'est une décision de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale qui est inattaquable. Ensuite, je voudrais d'abord qu'on fasse une petite genèse de cette affaire, le procureur contre Jean-Pierre Bemba. C'est d'abord le gouvernement centrafricain, par le truchement des autorités judiciaires, qui ont saisi la Cour en 2004 pour les allégations de crimes graves qui ont été commis sur le territoire centrafricain, notamment plusieurs personnes ont été citées dans le cadre de cette affaire. C'est la Cour pénale internationale qui a analysé les faits et qui reconnaît sa compétence à travers les éléments de preuve récoltés. Et par la suite, un mandat d'arrêt sous scellé, je parlais de mandat d'arrêt tout à l'heure, un mandat d'arrêt sous scellé a été lancé à l'endroit de M. Jean-Pierre Mbimba, qui se trouvait en ce moment sur le territoire de la Belgique et qui s'est fait arrêter notamment par les autorités belges. Et aussitôt fait et aussitôt transféré au siège de la Cour pénale internationale à La Haye. Son procès a commencé depuis le mois de novembre 2010. Et c'est en 2016 que sa culpabilité a été prononcée par les juges de la chambre de première instance 3. Puis il a reçu les peines de 18 ans d'emprisonnement ferme, comme Maître Mandenjapou vient de le dire. Il faudrait qu'en République centrafricaine, qu'on tienne compte de cette historique-là, de cette genèse-là de l'affaire Jean-Pierre Mbimba. S'il a été arrêté, c'est à cause des victimes, c'est à cause des crimes que ces hommes du MLC ont commis en République centrafricaine. S'il a été jugé, c'est à cause des victimes centrafricaines. Et ensuite, s'il a reçu comme peine 18 ans d'emprisonnement ferme, c'est pour crime de guerre, avec des éléments constitutifs comme le meurtre, le viol et le pillage. Et ensuite, comme crime contre l'humanité avec des éléments constitutifs comme le meurtre et le viol. C'est pour tout cela qu'il a écopé des 18 ans d'emprisonnement ferme. Et le bureau du procureur est allé même trop loin en faisant appel devant les mêmes juges de la chambre d'appel, disant qu'il devait y avoir accumulation des peines que les juges de la chambre de première instance 3 ont prononcé à l'encontre de Jean-Pierre Mbimba. C'est-à-dire, le bureau du procureur avait demandé 84 ans d'emprisonnement ferme pour Jean-Pierre Mbimba pour des crimes commis en République centrafricaine et pour la souffrance des victimes centrafricaines. Cela veut dire que la Cour pénale internationale a porté cette affaire à un niveau élevé. Et la Cour pénale internationale a eu un intérêt particulier pour ce cas de l'affaire Jean-Pierre Mbimba parce que c'est pour la première fois que cette Cour va prononcer un jugement pour la responsabilité hiérarchique du chef d'une armée. Non seulement parce qu'il a été sur le terrain, qu'il a commis les crimes lui-même, mais c'est le fait d'être irresponsable pour n'avoir pas pu former, pour n'avoir pas pu corriger certains actes de ces hommes. Et pour cela, il a été condamné, comme vous l'avez su, par les juges de la chambre de première instance 3. Et maintenant, il est question de procédure. Devant la cour, lorsque les juges prononcent une condamnation par justement les juges de la chambre de première instance, il est possible à ce que les deux parties puissent faire appel, que ce soit le bureau du procureur ou l'accusation. Et la défense de Jean-Pierre Mbimba a pris cette option-là, qui est procédurale, de pouvoir faire appel. Cet appel, les juges de la chambre d'appel, qui sont composés de 5 juges, les 3 juges ont estimé qu'ils n'ont pas été convaincus, au-delà de tout doute raisonnable, de la responsabilité de Jean-Pierre Mbimba en tant que donneur d'ordre ayant demandé à ces hommes de commettre ces crimes. Et comme M. Chavez disait tout à l'heure, ce n'est pas que la Cour n'a pas reconnu les crimes graves qui sont commis sur le territoire centrafricain. Là n'est pas la question. Les crimes ont été bien reconnus par la Cour pénale internationale. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Mais la question qui n'a pas eu gain de cause au niveau des 3 juges qui sont majoritaires, hein, qui n'ont pas été convaincus au-delà de tout doute raisonnable, c'est cette responsabilité hiérarchique en tant que donneur d'ordre qui aurait demandé, donné de l'ordre vraiment à ces hommes de commettre ces crimes au sein de la population centrafricaine. Mais je voudrais terminer en disant que même entre les juges, il y avait 2 autres qui étaient des juges dissidents, c'est-à-dire ils n'ont pas été d'accord avec ce que les 3 autres ont affirmé. Pour dire qu'au sein même de la chambre d'appel, les juges n'étaient pas tout à fait unanimes. Donc, pour dire que ce n'était pas une affaire aussi facile à décider. Mais la justice reste la justice.
C'est pas là qu'il faut donner raison à la politique.
C'est voilà, pas c'est pas le droit qui a été dit. Vous comprenez justement que...
Non, on ne peut pas agir à partir de là pour dire que c'est de la politique. Non, les juges, dans leur âme et conscience, devaient être convaincus au-delà de tout doute raisonnable. Et 3 juges
mais
sur 2...
Ça n'a pas été le cas.
En tout cas, c'est la démocratie qui est parfois appliquée dans la chambre d'appel de la Cour pénale internationale. Parce que lorsqu'il y a discussion entre les juges, c'est la majorité qui l'emporte. Et en ce moment-là, c'est la majorité qui l'a emporté. Mais cela ne veut pas dire que toutes les souffrances des victimes centrafricaines est complètement abandonnée, etc. etc.
Oui, non. Ça, nous l'entendons. Il y a une démarche de réparation.
Fonds au profit des victimes,
justement.
Qui a un mandat judiciaire et non judiciaire, et que le mandat non judiciaire va prendre en compte toute la souffrance des victimes.
Merci, M. Gervais Bodaga. Et justement, sur ce développement, Maître Fernand Sylvain Manetiapou, sur 5 juges, 3 n'ont pas été convaincus au-delà de tout doute raisonnable. Est-ce qu'il ne se pose pas justement un problème de compétence de la part de la défense légale des victimes centrafricaines pour fournir suffisamment de preuves, suffisamment d'éléments
afin d'inverser la courbe en leur faveur?
Bon, je pense que ce n'est pas une question de compétence. Nos conseils, c'est-à-dire les conseils des victimes devant la CPI, ils ont été très compétents jusqu'à aujourd'hui. Vous imaginez, leurs compétences sont approuvées pour qu'on puisse condamner Bemba à 18 ans d'emprisonnement. Deuxièmement, leur compétence n'a été prouvée parce que également vous essayez de voir que pour Jean-Pierre Bemba, Bemba fait 10 ans en prison. Bemba était quoi? Premier vice-président de la République. Bemba était quoi? Un homme d'affaires, un chef rebelle, un chef de guerre. Les gens l'ont arrêté. Et les conseils ont pris le temps d'aller derrière les victimes, les écouter, les entendre, venir à Bangui, repartir. Et jusqu'à même, un de leurs, un puissant conseil, je prends l'exemple de Maître Gungay Wafio qui a fait un accident lorsqu'il était parti voir les victimes. Tu vois, sa mort réellement, quelqu'un comme ça, on devait faire même des monuments en son nom. Et là aussi, je demande les efforts que nos conseils ont fait. Il était parti rencontrer les victimes, travailler avec les victimes. C'est à son retour qu'il a fait l'accident. Est-ce que l'État même pensait à cela? Je prends également l'exemple de tout ce que Maître Zarambo a fait. Et aujourd'hui, tous les gens, on entend parler de Maître Marie et de Touzima, de ce que les gens ont fait. Ce n'est pas de l'incompétence. Non, ce sont des gens compétents que aider, mais la décision des juges est souveraine. Et vous imaginez que cette décision actuellement c'est contradictoire parce que deux juges ne sont pas d'accord. Deux juges sont d'accord. Et vous essayez de voir que là où le conseil de Bemba parlait que c'est de la politique et également nous ne pouvons pas juger cela. Mais nous savons, si on remonte un peu dans l'histoire, c'était comment? Vous savez, la situation que traverse également les RDC, que nous essayons aussi de comprendre, c'est un grand leader du mouvement de libération du Congo. Jean-Pierre Bemba, c'est un parent, il est proche de Mobutu Sese Seko. Mobutu Sese Seko a été renversé par le père Kabila en 1998, on n'a pas oublié, par la rébellion de Kabila. Il a été assassiné et son fils lui succéda le 16 janvier 2001, c'est-à-dire Kabila a déjà fait 17 ans au pouvoir. Et les pays colonisateurs, les Belges, même nous, je vous rappelle que le sous-secrétaire d'État américain a demandé à ce qu'on puisse le libérer. Cette grande puissance qui part de la justice, de ceci, cela, ils ont demandé à ce qu'on puisse aussi libérer.
Oui, mais justement,
là, attends, excuse-moi, je vais finir sur ça. Et là, vous essayez de voir que la mort d'Étienne Tshisekedi. Je rentre un peu dans l'espace, là où le peuple est un peu inquiet. Parce que lorsque vous suivez sur les réseaux sociaux ou sur les autres chaînes internationales, les gens ont compris. Les colonisateurs jouent toujours leur rôle pour déstabiliser aussi les pays. Il faut qu'on en parle. Je touche ces points. Parce que là où Étienne Tshisekedi n'est plus là, il y a un opposant crédible devant Kabila. Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être, sur ce point, c'est l'argument que d'autres en ont parlé pour dire non, peut-être les gens l'ont sorti pour aller s'opposer à Kabila.
Il est fondé ou pas cet argument?
Non, moi ce sont des points de vue. Les points de vue, on est là pour l'émission, ce sont des points de vue que les gens l'ont parlé. Pour dire c'est vrai, il y a Étienne Tshisekedi qui n'est plus, son fils ne fait pas le poids. Donc il faut quelqu'un de poids lourd, Jean-Pierre Bemba. Et l'autre aspect également, si je rentre un peu dans l'histoire, vu que le président Kabila a demandé à ce que la Russie, l'accord de coopération de défense militaire avec la Russie, mais il y a une perturbation. Voyez un peu sous l'angle l'analyse des politiques. D'accord. Et nous sommes des juristes, il faudrait que nous prenions dans tous les sens.
Okay,
et ce qui revient à dire, le procureur a dit Jean-Pierre Bemba devait rester en prison jusqu'à ce que sa peine de subordination des témoins.
Oui, je vois ici que. Oui, maître Mandeja, vous avez salué la compétence des représentants légaux des victimes.
Oui.
Je me pose quand même la question de savoir est-ce que c'est sérieux de la part de la Cour pénale internationale qu'à la décision finale de ne reconnaître que 40 cas de pillage et 5 cas de viol sur l'étendue du territoire où le crime a été commis. J'ai quand même lu ça dans le résumé. Depuis le fleuve Oubangui jusque dans l'Ouam ou encore dans les autres villes, seulement 40 cas de pillage et 5 cas de viol ont été reconnus. Est-ce que c'est sérieux?
Je pense que c'est ce que vous venez de signaler. Moi, je n'ai pas le document. Parce qu'il faut avoir d'abord le vrai document pour en parler. C'est important aussi de toucher avec les représentants légaux des victimes qui vont vous donner des exemples clairs et précis là-dessus. Donc je pense que référez-vous aux représentants légaux des victimes qui vont vous donner des réponses là-dessus parce que je n'ai pas des documents qui prouvent qu'il n'y a rien que 40 cas qui sont reconnus. Parce que vous-même, de face de la presse, vous aussi, vous avez...
Oui, bien sûr, c'est ça, c'est ce qui est rapporté
bon,
dans la
moi,
presse.
Bon, moi, il faudrait que je vérifie d'abord. Je vérifie les faits avant de me prononcer. On est en Afrique et la situation des pays africains, de fois, on perturbe les pays africains sous cet angle. Ils utilisent tout. Je prends un exemple et toujours ces exemples-là, la situation
décision politique qui touche à l'aspect de l'intérêt national d'une nation, là où au niveau de RDC, ils sont en train de voir pour que la défense du territoire puisse être assurée par la Russie, il y a la perturbation. Là où la RC est en train d'aller pour que la défense du territoire puisse être assurée par la Russie, c'est le combat des grandes puissances. Mais premièrement, ce que j'allais dire, que nous, les Africains, que nous soyons unis et forts. Nous ne pouvons pas continuer avec cette... Je reconnais la compétence de la Cour pénale internationale et je sais que la Cour pénale internationale, il y a aussi Centrafrique 2 qui touche également certains cas de crimes. Il faudrait que nous, Centrafricains, nous soyons unis pour voir également les autres cas à venir.
Merci, Maître Mané Diapo. Monsieur Teruka Chabaz, aujourd'hui, la thèse ou encore le complot politique est mis en exergue pour justifier cette décision de la Cour pénale internationale. Est-ce que vous croyez à cela?
Il faut vraiment, en tant qu'homme politique, éviter d'être trop dans l'exagération. Je pense qu'actuellement, la RCA est un pays qui est diplomatiquement isolé, qui a beaucoup de difficultés avec ses relations au niveau de la politique étrangère. Et donc, ramener encore une crise à une crise, je pense qu'il faut éviter. Effectivement, on peut entendre ici et là que certains attaquent la décision d'être une décision d'ordre politique. En ce qui nous concerne, nous, RPR, nous prenons la décision telle qu'elle est et puis nous voyons ce que nous pouvons faire pour pouvoir aider nos amis, nos frères qui ont été victimes en ce sens-là. Mais à l'heure actuelle, ce qui est important à mon avis, c'est ça, c'est expliquer la décision, expliquer en quoi les victimes peuvent toujours bénéficier de leur réparation, etc. C'est ce qui est important avant tout. Et ce sont les victimes qui ont permis justement cette situation-là. Je pense qu'il est difficile à croire qu'on accuse quelqu'un de crime contre l'humanité, qu'on le condamne en première instance pour 5 viols ou 44. Parce que c'est pas possible, parce que sinon on ne parle pas de crime de masse, ni de crime contre l'humanité, ni de crime de guerre. Et je pense que ce sont des données qui, à mon avis, méritent d'être confirmées ou vérifiées du moins.
Merci, M. Teruka Chabaz. M. Varis Ngamana, aujourd'hui, cette décision de la Cour pénale internationale a déçu plus d'un, y compris vous-même. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les Centrafricains seront encore en mesure d'espérer en la Cour pénale spéciale, cette juridiction qui comporte en son sein des juges internationaux?
S'agissant de la Cour pénale spéciale, je crois que nous devons avoir foi en cette cour-là, puisque c'est une juridiction nationale, mais hybride. C'est l'émanation de la volonté populaire. Et Dieu merci, dans cette juridiction, nous avons les magistrats nationaux et nous avons les magistrats internationaux. Et en termes de quotas, je crois savoir que, si mes souvenirs sont bons, il y a 14 magistrats nationaux et 13 étrangers. Donc, la Cour pénale spéciale peut-être va corriger ce que la Cour pénale internationale n'a pas pu faire comme tel, puisque nous avons évoqué le cas de dissidence qu'il y a eu entre ces magistrats-là, et étant entendu que pour nous, les faits vont être jugés sur le territoire ici, nous aurons affaire à des magistrats rompus, consciencieux, et qui ont même vécu dans leur chair cette situation, qui vont être jugés là, parce qu'on va juger cette affaire depuis 2003. Et pourquoi ne pas aussi revenir sur la question des crimes commis par les éléments de Jean-Pierre Bemba, puisque les faits qui vont être jugés par la Cour pénale spéciale remontent de 2003. C'est-à-dire qu'on peut naturellement revenir encore sur cette question-là et examiner au niveau de la Cour pénale spéciale, qui est une juridiction qui est ici sur place.
Alors, M. Jean-Pierre Boudaga, au lendemain de l'acquittement de Jean-Pierre Bemba, certains Centrafricains ont proposé aux autorités d'envisager le retrait de la RCA de la Cour pénale internationale. Cette proposition est-elle justement envisageable selon vous?
Merci, Polyte. Avant d'embrayer sur cette question, je voudrais dire quelque chose sur ce que M. Ivaris vient d'annoncer, que la Cour pénale spéciale doit corriger la Cour pénale internationale dans la manière de juger. Je voudrais rappeler qu'au sein des chambres de la Cour pénale spéciale également, c'est soit 3 juges et la chambre d'appel de la Cour pénale spéciale également est composée de 5 juges. Dans le cadre des affaires, chaque juge est appelé à se prononcer. Et lorsqu'il n'y a pas d'unanimité entre les 5 juges, la majorité l'emporte, c'est la même règle. Et c'est de la justice. Les juges qui siègent au sein de la Cour pénale internationale sont indépendants et impartiaux. Donc il n'est pas question de tergiversement politique dans les affaires judiciaires, pas du tout. Donc je voudrais rappeler que...
Peut-être dans la théorie, oui.
Je voudrais justement rappeler ces principes avant de revenir sur la question.
Justement, cette question aujourd'hui, tellement que le sujet a fâché, d'aucuns proposent que la RCA enclenche déjà le processus de son retrait de la Cour pénale internationale.
Du point de vue du droit, le retrait d'un État du statut de Rome est un fait réel. Ça peut se faire. Et jusque-là, un seul seul pays l'a déjà fait, c'est le Burundi, qui s'est retiré du statut de Rome. Donc, du point de vue des dispositions du statut de Rome, c'est quelque chose de faisable. Mais maintenant, le contexte centrafricain, et vu la lutte contre l'impunité en République centrafricaine, cette impunité qui a complètement gangréné le développement de ce pays, est-ce c'est le moment pour la République centrafricaine de se retirer du statut de Rome? Je ne pense pas et je ne serai pas prêt à l'accepter en tant que centrafricain. Pourquoi? Parce que, vous savez, si aujourd'hui on critique la Cour pénale internationale pour l'acquittement de Jean-Pierre Bemba, nous devons nous rappeler que ce n'est pas un homme ordinaire. Le maître Mandenjapou l'a dit tout à l'heure, c'est le vice-président du Congo démocratique à un certain moment, c'est un sénateur, c'est quelqu'un qui était garant d'immunité, où la République centrafricaine, avec ses moyens, ne pouvait pas et n'avait pas toutes les possibilités de pouvoir mettre la main sur lui. Et si aujourd'hui, la Cour a mis la main sur lui pour des crimes graves commis sur le territoire de la République centrafricaine, l'a jugé dans une procédure qui a duré 10 ans, nous devons saluer cela. Et le mandat non judiciaire de fonds au profit des victimes qui va enclencher sa procédure en toute accélération, nous devons saluer cela. Donc pour moi, il n'est pas du tout question aujourd'hui pour la République centrafricaine de se retirer du statut de Rome, puisque la RCA est encore partie.
Partie prenante
et a encore demandé des enquêtes sur des crimes graves qui ont été commis sur le territoire de la RCA depuis 2012. Et il y a CARDE qui est actuellement en train de se poursuivre. Il y a les enquêteurs de la Cour pénale internationale qui arrivent en République centrafricaine toutes les semaines afin justement de faire avancer ce dossier qui est divisé en deux. Une partie concernant les enquêtes des allégations des crimes concernant les ex-Séléka et l'autre concernant les allégations des crimes contre les anti-Balaka. Donc vous voyez, tout ce travail, ça devait être également fait dans un esprit de confiance avec la population centrafricaine, parce qu'il appartient à la population centrafricaine de fournir des éléments de preuve à la Cour pénale internationale. Et si cette confiance-là est revue en baisse, vous voyez combien la Cour pénale internationale aura encore des difficultés pour pouvoir rendre la justice. Et demain, on dira encore que c'est de la faute de la Cour pénale internationale. Donc il est temps, encore une fois de plus, pour la population centrafricaine, vraiment de donner la main forte à la Cour pénale internationale en fournissant des éléments de preuve au-delà de tout doute raisonnable pour permettre à cette juridiction de bien faire son travail.
Si on disait que c'est plutôt à la Cour pénale internationale de chercher à reconquérir la confiance qu'elle est en train de perdre auprès de la population centrafricaine, je pense que c'est sûr. Ce n'est que mon avis. Nous allons donc terminer, Maître Fernand Sebiomani-Diapo. Un autre problème qui se pose aujourd'hui dans les différentes affaires portées devant la justice, c'est celui de la protection des victimes. Beaucoup aujourd'hui craignent d'aller témoigner devant les juges, pensant que voilà, aujourd'hui tout le monde se connaît, et les bourreaux et les victimes, c'est bien que quand tu te dévoiles, voilà, ta vie serait menacée. Cette situation n'est-elle pas déjà une grosse faille dans le travail de la Cour pénale spéciale?
Non, je pense qu'au niveau de la Cour pénale spéciale, nos députés viennent de voter la loi à 100%, presque 99% sur les mots de règlement des preuves et de procédures. Et dans ce règlement des preuves et de procédures, il y a la protection des témoins devant la Cour pénale spéciale. C'est comme la Cour pénale internationale qui a protégé les témoins. Tu imagines même Bemba, on le poursuit encore à cause de subordination des témoins. Il a acheté les témoins, il a donné l'argent pour acheter d'autres témoins. Donc vous comprenez, la Cour pénale spéciale, il y a la protection des témoins. Ton nom, les gens ne doivent pas connaître. Ta voix, ton image, on ne doit même pas te voir. Personne ne doit connaître ton nom, à part les juges à l'intérieur. Donc vous comprenez que pour la protection des témoins, ne vous inquiétez pas. Même s'il y a un témoin où sa protection est menacée, je pense qu'il y a des dispositions qui ont été prises dans le règlement des preuves et de procédures. Ce que j'aimerais soulever, c'est que Bemba, en tant que vice-président de la République, il a fait quand même 10 ans en prison. Mais ici chez nous, beaucoup des chefs rebelles, les leaders des groupes rebelles, ils ont fait 10 ans d'amnistie. On continue à les amnistier et l'Union africaine est en train de chercher à ce qu'on les amnistie. Il faut arrêter avec ça. Il faut les condamner. Il faut les arrêter. Les mettre la main dessus. On ne peut pas continuer avec cette allure jusqu'à aujourd'hui. Tu imagines, depuis des années, depuis 2008, même avant 2008, on continue à amnistier les gens, les criminels, les bandits. Pourquoi ne pas les livrer à la justice? Il faut les livrer à la justice. Aujourd'hui, en tant que centrafricain, je ne peux pas dire que non, nous devons nous retirer de la CPI à cause de ça. Non. Pourquoi le problème? Parce qu'il y a Centrafrique 2 qui concerne beaucoup des bourreaux. Donc, Jean-Pierre Bemba, il est là-bas seul en tant que Congolais, mais il y a beaucoup de Centrafricains qui devaient les accompagner. Et ces Centrafricains, en 2002, on a suivi le procès Jean-Jacques Demafoud. C'est pendant le procès Jean-Jacques Demafoud, jugé par la justice centrafricaine, que nous avons su comment les transactions, comment les choses ont eu lieu et comment les gens ont fait venir les éléments de Bemba. Il y a la responsabilité des autorités centrafricaines aussi de l'époque. Donc là, vous comprenez, c'est à nous, Centrafricains, d'être unis, derrière la Cour pénale internationale, derrière la Cour pénale spéciale et derrière même nos tribunaux ordinaires qui vont exercer ensemble. Parce que certains faits pour les mêmes crimes, poursuivis, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, il y a d'autres qui vont être poursuivis par la Cour pénale internationale, devront être poursuivis par la Cour pénale spéciale et les tribunaux ordinaires vont juger également d'autres bourreaux. Donc nous comptons beaucoup sur eux et nous, de la société civile, nous avons l'appui de la Cour pénale internationale et même de la Cour pénale spéciale parce que nous voulons que ces bandits, on les arrête tôt ou tard.
Merci, Maître Fernand Silva Madidiapou. Peut-être un dernier mot à M. Evariste Gamana. Aujourd'hui, c'est vrai, on a parlé de la Cour pénale spéciale, la Cour pénale internationale, mais il y a également les juridictions nationales aujourd'hui. Est-ce que les pouvoirs publics sont prêts à mettre tous les moyens qu'il faut? Parce que déjà, on a salué tout à l'heure la compétence de nos cours nationaux. Est-ce qu'on peut mettre davantage de moyens là pour ne pas que les victimes pleurent encore comme ça vient d'être le cas dès que cette décision contre Jean-Pierre Bemba était tombée?
Oui, effectivement, Hippolyte, je crois que c'est l'effort que le gouvernement est en train de faire pour que nous ayons une justice libre, indépendante, dotée des moyens conséquents de travail pour établir un état de droit. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons pour preuve la dernière session de la Cour criminelle qui a eu quand même à juger pas mal d'auteurs de crimes commis récemment, etc. Cela témoigne à suffisance que nos juridictions ont une certaine compétence et que s'ils sont dotés de moyens conséquents, ils feront un bon travail. Le gouvernement est à la recherche perpétuelle de ces moyens-là pour pouvoir doter nos juridictions de ces moyens conséquents.
Merci à vous, M. Evariste Gamana. Merci à vous, M. Teiru Kachabaz. Merci, Maître Fernand Silvio Manichapou. Merci à vous, M. Vicherfe Boudagaï. Nous arrivons ici au terme de ce débat Patara sur Radio Ndekeluka qui, je le rappelle, a été consacré à l'actualité judiciaire en République centrafricaine, marquée d'abord par les mandats d'arrêt des cernés contre certains individus suspectés d'actions subversives en Centrafrique, ensuite l'acquittement puis la libération de Jean-Pierre Bemba de la prison de la Cour pénale internationale. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission. Guy Rémi Amenenji à la technique, Hippolyte Marbois à l'animation, vous donne rendez-vous à samedi prochain pour une autre thématique.
Patara, l'émission politique de Radio Ndekeluka, réalisée par Hippolyte Marbois, tous les samedis à 10h05 en français et 18h en sango, avec rediffusion tous les dimanches à 10h.